Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'intitule « J'apprends à hacker à partir de 9 ans, 30 défis pour découvrir la cybersécurité et déjouer le piratage ». Donc, nous recevons les deux co-auteurs de ce livre, Sarah Sellos. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Et Nicolas Fouville. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limits Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Et Paul Amar.
Bonjour tout le monde.
Alors Sarah, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sarah Sellos, je suis ingénieure militaire à la Direction Générale de l'Armement, la DGA, qui est une direction du ministère des Armées. Je suis spécialisée en informatique, en numérique et en cybersécurité. Et je suis diplômée de l'ENSTA Bretagne, qui est une école d'ingénieurs qui forme à la fois des ingénieurs civils et des ingénieurs militaires. J'ai débuté ma carrière il y a plus de 15 ans comme experte technique des systèmes d'information opérationnelle au ministère des Armées. J'ai poursuivi mon expertise dans les télécoms et réseaux. Et puis, je me suis spécialisée naturellement en cybersécurité en 2017. Et en 2021, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'ANSSI en tant que coordinatrice sectorielle défense. Puis en 2024, j'ai retrouvé la DGA pour diriger un département dans un centre qui est le Centre d'analyse technique opérationnelle de défense, le CATOD.
Merci Sarah. Nicolas ?
Alors moi je suis analyste SOC au ministère des Armées. J'ai commencé le hack, comme on peut au sens premier du terme, en 2006. Donc j'avais déjà, monsieur Hervé Schauer, je connais déjà un petit peu du coup, et puis un certain magazine. Et par Case Voice aussi, que j'ai pu, grâce à qui j'ai mis bien les pieds dedans. Et c'est assez sur le tard où j'ai travaillé dans la cybersécurité, donc en analyste SOC, pour la DGA aussi.
Alors, dans un premier temps, je propose qu'on fasse un point de terminologie. Nicolas, quelle est ta définition du verbe hacker ?
Alors, hacker, contrairement à pirater, c'est, pour essayer d'avoir un niveau assez abstrait de la définition, c'est se réapproprier un système de sorte à ce qu'on puisse en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut amener à contourner des sécurités, à détourner de son fonctionnement de base pour en faire quelque chose qui nous serve autrement. Une définition un peu abstraite. Dans le concret, en fait, le piratage, ça, on pourrait plus l'associer souvent à du vol, à de l'usurpation ou à de l'intrusion. Et c'est justement très discutable sur la morale et encore moins sur la légalité.
Sarah, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais compléter ce que dit Nicolas. Donc, le terme de hacker, nous, on le voit comme bidouiller, manipuler, tester. Et à la base, ça veut pas du tout dire pirater. Il faut bien comprendre que les grands pionniers du numérique ont été pour beaucoup des hackers. Et je sais que c'est vraiment difficile d'expliquer ça au grand public, mais c'est vraiment essentiel de comprendre ça pour éviter que finalement le grand public se détourne de cette discipline et que finalement cette discipline reste à la main uniquement du côté des méchants, comme on dit. Donc ça, on l'explique bien dans le livre, la distinction entre hacker et pirate, c'est essentiel, mais bien sûr, on explique aux enfants qu'on peut pas faire du hacking n'importe où, n'importe comment, avec n'importe quoi, et on explique bien qu'ils peuvent s'exposer à des sanctions pénales, des amendes et même de la prison, et c'est vraiment la première chose qu'on explique dans le livre.
Effectivement, ouais. Toute la différence est dans l'intention, au final.
Et alors, c'est avec vos propres enfants que vous vous êtes dit qu'un tel livre était intéressant à faire, ou pas du tout ?
Alors, ben si, tout à fait. J'apprends à hacker, c'est un livre déjà qui vise à initier les enfants à la cybersécurité dès l'école primaire, par le biais du hacking éthique. C'est un livre interactif qui s'appuie sur une plateforme capture de flag, CTF. On l'a appelé Challenge Kit, cette plateforme, et elle propose 30 défis pour découvrir le hacking. Et pour résoudre ces défis, on n'a pas besoin de savoir coder, on n'a pas besoin de connaître des commandes système très compliquées. Pour jouer, il suffit juste de savoir lire, écrire et compter. Et à la base, en fait, J'apprends à hacker, c'était mon idée, et Nicolas, il a eu la gentillesse d'y croire et de me suivre dans cette aventure. Et comment elle est née, cette démarche ? Ben, en fait, c'est une démarche un petit peu personnelle, qui s'inspire de mon parcours professionnel en cybersécurité, mais aussi de mon rôle de mère, puisque je suis maman de deux jeunes filles qui étaient à l'époque, en 2021, des petites filles. Donc tout a commencé en 2021, et j'avais envie de transmettre à mes filles ma passion pour l'informatique et le hacking, et parce qu'elles avaient des cours d'informatique en primaire et ça ne leur plaisait pas. Alors, j'ai conçu une toute petite plateforme avec une maquette très rustique, avec quelques petits défis pour adapter à leur niveau, pour leur montrer à quel point l'informatique, ça pouvait être aussi vraiment très amusant. Alors, c'est vrai que au départ, j'ai pensé à mes enfants, mais petit à petit, ça a touché un public plus large. Leurs copains, leurs copines, leurs camarades de classe. Et quand j'ai voulu construire quelque chose de plus solide, je me suis tout de suite tournée vers Nicolas, qui a été hyper enthousiaste à l'idée de créer des défis de hacking pour les enfants, où il fallait juste savoir lire, écrire et compter.
Et vous vous êtes fait accompagner de personnes pour justement le rédiger? Vous aviez déjà une expérience dans la rédaction de livres, je veux dire, pour du jeune public?
Alors, pas du tout. C'est vraiment notre premier livre. Et en fait, l'histoire a commencé, comme je le disais, en 2021. En fait, on avait juste une plateforme. Grosso modo, on avait que la plateforme Challenge Kids, qui est accessible sur Internet, sur www.challenge-kids.fr. Et donc, au départ, on avait vraiment juste une plateforme. Et elle a rencontré beaucoup de succès parce que on a animé des ateliers petit à petit. Alors j'en ai animé dans les écoles de mes filles, mais surtout j'en ai animé au sein de l'ANSSI, au sein de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, avec mes collègues, avec des ateliers en binôme parents-enfants. Et petit à petit, on a été invités à différents événements organisés par le campus cyber, organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment passer à l'échelle, il fallait vraiment qu'on écrive un livre, parce qu'on pouvait pas à deux, finalement, faire le tour de toutes les écoles et voir tous les enfants. Donc en l'espace de 3 ans, entre 2021 et 2024, on a vu près d'un millier d'enfants, mais on pouvait pas se déplacer partout. Et donc finalement, c'est une collègue de travail au sein de l'agence qui m'a mis un petit peu au défi en me disant « Mais comment tu passes à l'échelle ?» Et notre réponse, ça a été d'écrire ce livre. Donc ce livre, il comprend des fiches pédagogiques pour aider le lecteur, les lecteurs, petits ou grands, à résoudre les challenges de hacking. Ça donne des pistes, ça donne des explications techniques, exactement comme quand on anime un atelier. Et il faut comprendre que même si les challenges qui sont contenus dans ce livre, ils sont conçus pour n'avoir aucune connaissance en informatique et en cybersécurité, l'air de rien, les défis sont pas si simples à résoudre parce qu'ils implémentent des véritables failles qui ont véritablement été exploitées dans des vraies cyberattaques. Et c'est ce qu'on essaye d'ailleurs d'un peu raconter dans le livre.
Et comment vous avez organisé le livre? Je regarde un petit peu. Alors, au passage, j'en profite parce que les illustrations sont absolument magnifiques. Ça ressemble à une sorte de manga slash cyberpunk. C'est très coloré. C'est vraiment très joli. Notamment, la couverture, il y a plein de couleurs de partout. Et comment vous avez organisé le livre? Et quelles sont à peu près les thématiques que vous abordez? Vous faites de la crypto?
Oui. Alors, Nicolas, est-ce que...
Oui, il y a de la crypto, il y a de la Stega, il y a du réseau, de la culture, et puis du web, forcément, du web. Et c'est un peu l'écran classique qu'on peut retrouver sur beaucoup de CTF, au final. C'est justement, en fait, l'idée, c'est d'initier au CTF pour les grands.
Et les challenges, il y a une difficulté particulière qui est donnée? Un temps de résolution? Comment c'est...
Alors, les challenges sont en difficulté croissante. Il y a même un petit score de difficulté, d'ailleurs, sur chaque challenge, allant du vert au rouge, tout simplement. Et les trois difficultés sont présentes dans toutes les catégories. Donc, ça laisse un panel assez large pour celui qui veut apprendre ou celui qui veut s'améliorer.
Et j'ai juste précisé quelque chose, c'est que, en plus de ça, en plus des difficultés et de l'aspect progressif, dans l'aspect pédagogique, c'est important de répéter ce qu'on a fait. Et donc, quand on résout un challenge et qu'on réussit un challenge, eh bien, dans d'autres challenges, on retrouve le même type d'épreuve pour réutiliser ses compétences. Typiquement, si on a trouvé, si on a fait un challenge qui s'appelle BAS d'encodage pour découvrir le BAS 64, on va retrouver plus tard dans un autre challenge, un peu plus difficile, dans une autre catégorie, un encodage BAS 64 qu'il va falloir décoder, qui va donner une piste.
Intéressant. Et comment le livre et la plateforme se complètent? Est-ce que on peut uniquement utiliser le livre et pas la plateforme, et inversement, ou comment?
Alors, la plateforme, elle est indispensable au livre, même s'il y a quelques challenges qu'on peut faire. Effectivement, il y a 8 challenges qu'on peut faire uniquement sous format papier. Maintenant, la plateforme, elle est accessible. On n'est pas obligé d'avoir le livre pour pouvoir jouer, mais comme je le disais, quand on est vraiment débutant, on peut être confronté à des difficultés. Et quelque part, avoir le livre, ça permet simplement de bien comprendre ce qu'on a fait. Ça permet d'avoir quand même du vocabulaire, des anecdotes. Ça permet vraiment, en fait, de progresser. Donc, effectivement, la plateforme, elle est accessible en ligne. On n'est pas obligé d'avoir le livre pour pouvoir jouer. Mais on est vite limité quand on est un grand débutant, si on n'a pas le livre.
D'accord.
Et quand on prend des plateformes, je veux dire, peut-être pour un public un petit peu plus âgé, type RootMe, où en fait on a un pseudo, il y a tout un scoreboard, etc. Est-ce que sur cette plateforme-là, est-ce que c'est complètement libre, c'est-à-dire sans avoir accès à un compte, on est en capacité de pouvoir commencer les challenges? Ou est-ce que vous avez aussi un scoreboard sur Challenge Kids?
Il y a un score. Non, il n'y a pas de scoreboard. Il y a un système de score, effectivement. C'est plus pour que l'étudiant ou le joueur puisse savoir où il en est par rapport à tous les challenges, pour éventuellement s'évaluer lui-même, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de tableau de score pour se mettre en compétition avec d'autres. Là, le but premier, c'est vraiment apprendre et se préparer à des CTF type RootMe, plutôt que d'être en compétition avec d'autres.
Donc, il n'y a pas besoin de se loguer, de créer un mot de passe. Il n'y a aucune donnée personnelle sur la plateforme. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est qu'on a une plateforme en ligne, mais on a aussi des versions qui sont locales. On a développé deux versions locales. Une version expert qui reprend le code PHP du site et qu'on peut installer sur un serveur en local. Et on a développé une version Simply, entièrement en JavaScript, qui simule le fonctionnement d'un serveur et même d'un terminal Linux.
Ouais, effectivement, le site, enfin les sites en ligne ou hors ligne sont très portables, très très faciles à porter sur des réseaux locaux ou autres, quoi.
Et au niveau de la cible des personnes, finalement, c'est quand même adressé sur un jeune public. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de fil en aiguille, par bouche à oreille, que finalement vous arrivez aussi peut-être à adresser potentiellement peut-être un public que vous n'aviez pas imaginé?
Oui, tout à fait.
En fait, le livre est adressé à partir de 9 ans.
C'est ça.
C'est ouvert à plus.
Et donc, moi, j'ai fait des ateliers concomitamment à la publication de l'ouvrage. Et donc, on est allé faire des ateliers auprès des primaires, des collégiens. Mais je suis aussi intervenue auprès des lycéens qui ont la spécialité NSI, SNT. Et j'ai même fait une intervention au campus cyber pour des BTS ciel qui ont découvert le hacking comme ça et qui se sont bien amusés parce que comme je vous le disais, c'est pas si simple que ça. Et je trouve ça très satisfaisant de voir qu'un étudiant qui a 18-20 ans peut un peu galérer pour trouver le challenge, et à côté de ça j'ai une petite qui a 8 ans qui arrive à le faire parfaitement. Donc c'est très rigolo.
Et les événements type le hack kids, c'est potentiellement quelque chose de possible, en tout cas participer à des conférences. J'ai l'impression qu'en tout cas, oui, il y a de plus en plus de conférences techniques en France, que ce soit dans la Sécu ou juste Tech, qui justement proposent des événements. Je pense notamment aussi à Devox for Kids, qui propose des ateliers pour, on va dire, acculturer, pour le coup, vraiment un jeune public à la tech, en fait.
Oui, les deux dernières années de l'EAC, il y a justement une section pour les kids, avec dans cette section un espace dédié à Challenge Kids, en fait.
Oui,
et les Players pour le livre.
On est intervenu en 2021, en 2022 pour le Hack Kids, où on a expérimenté notre plateforme à ce moment-là, et les organisateurs du Hack Kids ont réutilisé la plateforme aussi en 2024, cette année-là. Donc on a pu éprouver le concept, son intérêt dans cet événement.
Et vous avez déjà envisagé que certains de vos challenges soient intégrés dans PIX, vous savez, la certification que passent tous les élèves pour encore plus les pousser vers la cyber?
Alors là, je vais parler de ce que je connais. En fait, j'ai participé à la campagne Demain spécialiste cyber du ministère de l'Éducation nationale. Il y a effectivement un gros mouvement pour intégrer la cybersécurité dans les programmes dès le collège. En fait, la difficulté que rencontre actuellement le ministère, c'est la prise en main par les professeurs. Donc, ils sont en train de développer des contenus pour pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, nous, on a été invités plusieurs fois par le ministère de l'Éducation nationale pour faire des présentations de cette plateforme à côté de d'autres partenaires comme RouteMe, mais aussi comme le ComCyber qui organise Passe ton hack d'abord. Donc il y a vraiment un mouvement dans lequel on est identifié, clairement référencé, et on est même identifié dans le magistère de l'éducation nationale.
Ouais, le problème de l'éducation nationale, c'est que les gamins, finalement, ils ont un niveau qui dépasse celui des enseignants.
Alors, c'est vrai pour certains, mais dans les petites classes, c'est pas le cas. Mais c'est effectivement difficile pour les enseignants de s'approprier une nouvelle matière qui est pleine de mystères. Et donc, l'objectif de ce livre, c'est aussi de pouvoir démystifier tout ça, et ça pourrait être totalement un support pédagogique pour des professeurs qui voudraient animer des ateliers.
Ah bah oui, c'est fait pour.
Mmh. On a même fait des ateliers avec les professeurs, d'ailleurs. Plusieurs. Mmh.
Et ça, c'est des choses que vous souhaitez reconduire, justement, enfin, parce que je pense que
mais
le fait de proposer ça...
C'est pas trop lourd au niveau bénévolat, tout ce temps?
Si, effectivement, c'est très très lourd. En fait, on a une association qui s'appelle Kids Can Hack, qui est une association à but non lucratif. Et effectivement, on ne peut pas participer à tout. On prend beaucoup sur nos jours de congé, sur nos temps un peu perso, pour pouvoir participer à ces événements. Mais effectivement, on peut pas faire ça plus que... une ou deux fois par mois, et encore, à la fin de l'année 2024, on n'avait plus beaucoup de congés, moi et Nicolas, pour pouvoir participer à ces événements. Mais c'est tout l'intérêt, justement, d'avoir un livre. C'est que l'idée, c'est que d'autres professionnels ou tout simplement des professeurs qui sont assez tech, comme des professeurs de technologie, qui sont des brouillards, qui s'intéressent à l'informatique, puissent se réapproprier ces séances et le faire eux-mêmes.
Et justement, est-ce que vous avez une documentation ou une formation pour pouvoir entraîner l'entraîneur? Je ne sais pas comment...
En fait, le livre était conçu comme ça au départ, et finalement, on l'a plutôt orienté sous la forme de s'adresser aux enfants, sous les conseils de notre éditeur. Mais finalement, que ce soit l'enseignant ou l'enfant, même si l'enseignant part de zéro, il y a les solutions. Qui sont à des solutions en fait qui apparaissent à la fin du livre, hein, c'est dans le chapitre Solus, et qui donne plein d'explications à destination de ce qu'on appelle plutôt un mentor, qui va enseigner à un apprenant, à un apprenti hacker, comment faire. Donc il est vraiment conçu, l'aspect en fait formation du professeur est intégré en fait dans l'ouvrage.
C'est une très bonne initiative, parce que c'est vrai que ça va permettre la démultiplication en fait.
C'est exactement ça, et c'est une démultiplication qui est, je trouve, assez éthique, dans le sens où, voilà, c'est un livre, ça coûte pas très cher, c'est accessible, la plateforme est accessible gratuitement, donc c'est une connaissance assez inestimable pour un petit prix, quoi. Mmh. Voilà, c'est pas un système d'abonnement, on a vraiment fait ça dans l'esprit du hacking, du partage. C'est vraiment une communauté de partage, le hacking. Et voilà.
Et sans donner la réponse au challenge, est-ce qu'il y en a un que vous avez vraiment préféré, soit à construire, à écrire? Quel est votre challenge préféré? Sans donner
celui
la réponse, évidemment.
Celui que personne ne trouve au premier plan. Il y en a un qui est planqué, et on s'est bien amusé à le faire, oui.
Voilà, il y a un challenge caché. Et pour le trouver, il faut vraiment aller à la fin du livre. Et voilà, on va pas en dire plus, parce que mais c'est un challenge qui, quelque part, démontre que, en fait, on peut continuer l'aventure sur maintenant des plateformes un peu plus élaborées comme RouteMe, parce que le challenge ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur ce type de plateforme. Et c'est ce challenge-là qui est finalement le plus amusant. Le challenge caché.
Il avait un peu pour rôle de reprendre tout ce qu'on a pu apprendre, en fait, à travers les autres.
Et on a deux versions, hein. On a une version PHP, une version JavaScript. Eh bien, dans chaque version, le challenge caché est différent.
Mm-hmm. Et est-ce que vous avez pensé à un format un petit peu jeu de piste pour, on va dire, vraiment d'étape en étape, on va dire, à évoluer, ou vraiment là vous étiez vraiment resté focalisé sur des petits challenges unitaires ou pas?
Ah, par rapport à un challenge plus global, ou en fait
oui.
Non, exact. En fait, on a conçu ces challenges pour pouvoir déjà plusieurs objectifs. C'est quoi l'objectif? C'est déjà mieux les sensibiliser, donc les mettre en situation de danger. Donc il y a des challenges par exemple sur les cookies, sur le phishing. Ensuite on a voulu faire des challenges pour qu'ils comprennent comment fonctionne le cyberespace, pour leur donner des bases. Et après on a aussi conçu des challenges pour que vraiment ça fasse un défi intellectuel intéressant, parce que le hacking c'est vraiment un défi intellectuel. Donc si on veut faire tout ça, le faire que sur une thématique, c'est pas simple, sachant que en plus il faut construire quelque chose où les enfants doivent juste savoir lire, écrire et compter. Et pour que notre démarche elle soit aussi crédible, on voulait faire en sorte que les challenges qu'ils réalisent, ils arrivent à le retrouver quelque part, peut-être en plus difficile, sur d'autres types de CTF, comme par exemple les challenges qui sont proposés sur RootMe, ou les challenges qui sont proposés dans le France Cyber Security Challenge, qui est le CTF organisé par l'ANSSI. Donc on est effectivement sur des sujets un petit peu autonomes, mais il y a quand même une progression par catégorie.
Est-ce qu'il y a des challenges où vous dites finalement, après la parution du livre, mince, ça aurait vraiment été dommage qu'on... en tout cas c'est dommage, on aurait pu rajouter celui-là. Franchement, j'avais une idée absolument folle. Vous en avez un petit peu? Peut-être pour un deuxième opus,
qui sait? Oui, il y en a plusieurs.
Vas-y Nicolas,
c'est... Non mais, là vous ferez un volume 2.
En fait, pour tout vous dire, j'avais l'idée, alors je sais pas, je crois qu'on n'avait pas le droit malheureusement, c'était de reprendre des extraits de films ou de séries où il y a des séances de hack et de refaire des challenges en se basant sur ces extraits.
Ouais, c'est dur d'avoir les droits. Hein.
C'est ça, c'est les droits de propriété.
Ouais, c'est ça. Parce que dans Mister Robot, il y a plein d'extraits, dans The Social Network, il y en a plein, dans Matrix, etc. quoi. Et je pense que ça aurait pu être super sympa de voir justement, ah, il y a cette séquence, voilà ce qu'on peut faire en vrai, et voilà l'impact dans la vie. Puisque c'est un peu la marque de fabrique du site. Quoi.
En fait, c'est évident qu'il y a des choses, qu'il faut explorer d'autres thématiques qui sont hyper intéressantes. Mais à un moment, en fait, quand on a un projet littéraire, il faut bien avoir un périmètre, sinon, en fait, on sort jamais le livre. Donc, avec notre éditeur, on s'est accordé sur un chiffre rond, 30 défis. Et donc, effectivement, avec Nicolas, au départ, il était comme il est hyper créatif, il avait plein de challenges, mais après, il fallait rédiger l'ouvrage. Et en fait, on n'avait pas le temps. Entre le moment où on a signé notre contrat d'édition en mars 2024 et au moment où il fallait le rendre en juin 2024, il fallait qu'on soit raisonnable et donc c'est pour ça qu'on aborde. Mais effectivement, on aurait pu faire des épreuves en reverse. Ça, vraiment, c'est un regret. Comment apprendre le reverse, mais dès le départ, je pense qu'il y a un besoin parce que le reverse c'est difficile sur des vulnérabilités système. Et sur des vulnérabilités applicatives, en se basant typiquement sur le programme de niveau primaire avec du Scratch, par exemple, je pense qu'on aurait pu faire plein de choses. Mais voilà, on s'est un petit peu borné sur une première édition et c'était déjà un travail énorme.
Bah, ce sera pour des opus suivants. Et je reviens un petit peu là tout à l'heure, Sarah, tu disais finalement, cette idée, elle est aussi venue parce que l'une de tes filles, en fait, était pas vraiment inspirée avec les cours d'informatique. Est-ce que déjà, premièrement, est-ce que ça lui a redonné foi un petit peu dans l'informatique? Et de deux, est-ce que tu vois ça comme un vecteur, on va dire, intriguant, qui permet de démystifier et qui peut potentiellement peut-être amener plus de fans, de femmes, de jeunes filles dans des métiers de la tech de manière générale? Enfin, quand on voit le taux de féminisation des écoles d'ingé, c'est difficile. Voilà, alors, encore trop tôt, évidemment, mais est-ce que vous avez aussi ça un petit peu en musique de fond?
Non, mais j'ai des anecdotes qui sont intéressantes. Donc, par rapport à mes filles, oui, effectivement, ça leur a donné la foi vis-à-vis de l'informatique. Effectivement, les cours un peu théoriques, c'était ennuyeux, mais mes deux filles, elles ont fait tous les challenges de la plateforme. Et la plus grande, qui a maintenant 13 ans, elle est sur RootMe. Donc voilà. J'ai initié aussi mes deux nièces, dont une qui est tellement mordue qu'elle veut devenir plus tard expert en cybersécurité. Elle a 12 ans. Et parmi toutes les petites filles que j'ai pu croiser dans les écoles, surtout dans les écoles primaires, c'est plus difficile d'attraper les filles quand elles sont au lycée parce qu'elles ont déjà en fait dans leur tête ce qu'elles ont envie de faire plus tard. Mais vraiment en école primaire, j'ai été très marquée par une petite fille qui était hyper comment dire, vive. Elle était très vive. Elle avait vraiment beaucoup de facilité pour faire les challenges, alors que dans la majorité, la classe avait un petit peu plus de mal. Mais elle, elle arrivait à faire tout vite, avant tout le monde. Et à la fin, elle est venue me voir et elle m'a dit, bah, moi, je voulais faire dentiste, mais je me verrais bien dans l'informatique. Donc, effectivement, c'était, enfin, on verra plus tard si ça se produit. Mais je pense que c'est un moyen de briser les stéréotypes, ou plutôt, de montrer que c'est accessible à tous, parce que typiquement, on a appris des choses quand même complexes hein, dans ce livre. Quand on a fait les 30 défis, on a vraiment un sacré niveau, et je pense qu'un niveau peut-être parfois supérieur à certains spécialistes de cybersécurité qui font pas de la technique. Et on apprend quand même beaucoup de vocabulaire, c'est difficile, et pourtant, on y arrive en sachant juste lire, écrire et compter. Et donc, c'est très important de briser ce stéréotype dès au plus tôt. Comme ça, les jeunes filles, quand elles arriveront en informatique, elles se mettront pas de barrières. Elles auront le sentiment d'avoir, de s'être bien amusées d'ailleurs, et d'avoir réussi à faire des choses difficiles. Après, bien sûr, il faut le voir dans le temps.
Et un truc qui est pas des moindres aussi, c'est que sur le site, il y a un cyberchef. Ce qui fait que pour résoudre les challenges, Cyberchef peut être utilisé. Et il y a des explications d'ailleurs dans le livre et sur le site même. Et
Cyberchef, pour les auditeurs, tu peux expliquer juste rapidement à quoi ça sert?
Ah, pardon. Alors, Cyberchef, c'est un pack d'outils entièrement utilisable en web qui a été développé par le GCHQ. C'est un état, en fait, c'est un service britannique dans la sécurité de l'État, donc, qui a développé cet outil qui permet de chiffrer, déchiffrer, de coder, décoder, de retrouver des fichiers dans des trames réseau par exemple. Enfin bref, on peut faire énormément de choses. Et en fait, cet outil permet de résoudre pas mal de challenges donc sur le site Challenge Kids. Et je trouve que c'est très très bien d'apprendre ça assez tôt, parce que nous, en analyste SOC, on utilise cet outil depuis pas si longtemps, en fait, qui est pourtant très très complet.
Ok, est-ce que vous souhaiteriez apporter le mot de la fin? Ou est-ce qu'il y a des choses peut-être en préambule? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez aborder dont on n'a pas parlé avant le mot de la fin?
Si, moi, je pourrais peut-être ajouter un petit mot, pas directement en rapport avec le livre, mais plus en rapport avec le hack, de manière générale. Comme j'en disais, on en parlait à une interview précédente. En fait, ce qui me paraît important dans J'apprends à hacker, dans le fait d'apprendre le hack, c'est aussi prendre conscience que les écrans sont des écrans. Ce qu'il y a sur un écran, c'est pas la vie, c'est pas la télé, c'est pas toujours la vérité. Et apprendre que c'est un outil avant tout, je pense que c'est vraiment très important. Voilà. Je tenais à dire ce petit message.
C'est un excellent mot de la fin.
Alors, oui, mais peut-être que vous souhaiteriez ajouter d'autres choses en complément.
Moi, je vais dire un petit mot de la fin. Donc, si les auditeurs ont vraiment envie de découvrir cet univers de hacking, n'hésitez pas d'aller sur la plateforme Challenge Kids. Et si vous êtes bloqué, achetez le livre « J'apprends à hacker » parce que vous allez réussir très facilement à les résoudre. Voilà.
Alors, en tout cas, vous m'avez donné envie d'acheter ce livre. Donc, je rappelle, je renvoie à la plateforme qui s'appelle challenge-kids.fr. Et donc, votre livre, J'apprends à hacker à partir de 9 ans, aux éditions d'Uno. Voilà, Sarah, Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.